Radio Prague, les informations.
Bienvenue à l'écoute, Alexis Rosenzweig, au micro pour le bulletin dont voici les titres. La République tchèque sera impliquée dans le projet de défense antimissile en Europe. Le gouvernement tchèque ne fixe pas de date pour l'entrée dans la zone euro. Et puis énergie, le chef de la diplomatie tchèque prône la diversification des fournisseurs. La République tchèque sera donc impliquée dans le projet de défense antimissile américain en Europe. Les États-Unis ont officiellement confirmé l'information selon laquelle un centre d'avertissement préventif serait établi sur le territoire tchèque. Le Premier ministre Petr Nečas a confirmé ces informations et a indiqué que ce nouveau système sera très probablement intégré dans les structures de l'OTAN. Rappelons que cette année, le président américain Barack Obama a annulé le projet initial de défense antimissile en Europe, qui prévoyait notamment l'installation d'un radar hyperpuissant sur le sol tchèque. Le gouvernement tchèque ne fixera pas de date pour l'adoption de la monnaie unique européenne. Dans un entretien accordé à l'agence Bloomberg, le Premier ministre Petr Nečas a indiqué que le programme de son cabinet ne comporterait pas de date butoir pour l'entrée dans la zone euro. Une adoption trop rapide de l'euro pourrait favoriser l'inflation, selon le chef du gouvernement. Les exportations sont certes importantes, mais ce pays n'est pas seulement un pays d'exportateurs, a-t-il ajouté. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, estime quant à lui que le pays doit diversifier les fournisseurs en énergie. Après avoir noté qu'une importante partie de l'énergie tchèque était importée de Russie, il a estimé dans un entretien accordé à l'agence Dow Jones Newswires qu'il ne pensait pas que, je cite, « ce soit une bonne idée de dépendre d'un seul pays ». Prague, vous le savez, a lancé un appel d'offres très important pour de nouveaux réacteurs nucléaires et trois sociétés, une russe, une américaine et une française, sont en lice, Atomstroy Export, Westinghouse et Areva. J'aimerais une coopération étroite avec les États-Unis, mais en matière d'appel d'offres, je préfère un bon prix et une bonne qualité, a précisé Karel Schwarzenberg. La municipalité de Brno serait en passe de laisser le symbole communiste du marteau et de la faucille sur un monument érigé dans le quartier de Kralovo Pole, en l'honneur des soldats de l'armée rouge qui ont participé à la libération de la région pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une initiative locale avait demandé à ce que le marteau et la faucille soient enlevés et les conseillers municipaux avaient voté dans ce sens en début de l'année. Mais l'Institut des Monuments Nationaux vient de recommander de laisser le symbole communiste en place et la mairie devrait suivre cette recommandation. Ouverture depuis hier vendredi à Hronov en Bohême de l'Est de la 80e édition du Festival de théâtre d'amateurs. Elle se poursuivra jusqu'au 7 août et propose des spectacles de théâtre évidemment, mais aussi des concerts et des séminaires. Le Festival de Hronov, qui se déroule avec une participation internationale, est le plus ancien festival de théâtre non professionnel en Europe. On termine ce bulletin comme d'habitude avec la météo. Et c'est un temps estival, il fait beau et il fait chaud en République tchèque et notamment à Prague en ce moment. Il devrait faire beau et chaud tout ce week-end avec quand même quelques averses passagères ce samedi, jour de fête des Ignace en français, selon le calendrier local. Et vous avez rendez-vous dans un instant avec la suite du programme en français de Radio Prague. Très bonne écoute et surtout très bon week-end.
Rencontre littéraire, Václav Richter.
Ferko, Keva, Albina. Tels sont les noms des livres d'une trilogie qui évoque, sous forme de la bande dessinée, trois vies de Rome, trois existences authentiques illustrant chacune à sa manière la condition des Roms de Tchéquie et de Slovaquie. Ce témoignage exceptionnel qui marie le réalisme cru et l'empathie est l'œuvre d'un trio de créateurs, Masha Boshkovtsova, Marketa Hajska et Wojciech Mašek. Chaque livre, chaque bande dessinée de cette trilogie intitulée « Obshibiehi, histoire » est donc devenu le portrait d'un être humain et aussi de la société dans laquelle il vit.
Mamoe, venire ciamore,
La vie est une source d'histoires intarissables. Raconter une vie n'est pas cependant une chose simple, surtout quand celui qui raconte cherche la vérité. Marketa Hajska, co-auteur de la trilogie sur les trois vies de Rome, explique pourquoi elle et ses collègues ont choisi la forme de la bande dessinée.
Nous trouvons que la bande dessinée est un genre très intéressant parce que c'est un média progressif qui est bien reçu par les jeunes et peut même attirer les lecteurs qui ne s'intéressent pas à la problématique rome et ne liraient pas un livre classique consacré à cette problématique. La bande dessinée touchera donc un autre groupe de lecteurs.
La première BD, Ferco, évoque la vie d'un Rome sexagénaire de Bohême du Nord, un retraité handicapé qui soigne son frère gravement malade, cherche à améliorer sa situation par la collecte de vieilles ferrailles, et dont la vie est un déménagement perpétuel. Marketa Hajska ne cache pas que tout cela a compliqué le travail sur ce livre.
Un des aspects les plus intéressants, qui est également un des thèmes importants du livre, a été le fait que Ferco nous échappait toujours. Lors de la première visite, nous n'étions pas sûrs de le trouver. Puis, il a déménagé à plusieurs reprises, a vendu son téléphone et nous ne savions plus où il habitait. Et cela a continué jusqu'au moment où nous avons présenté le nouveau livre au public.
Heureusement pour le livre, Ferco est aussi un narrateur passionné. Dans ses récits, un des thèmes principaux de la BD, il se présente comme un héros, un homme juste et sage, homme qui éveille le respect par son autorité morale et sa force physique, et qui est aussi aimé par les femmes. Le deuxième volet de la trilogie intitulée Keva est une mosaïque qui forme progressivement le portrait d'une jeune femme rome du quartier de Smichov à Prague. Keva a 20 ans. Dans la semaine, elle travaille, mais le vendredi soir, elle va dans des discothèques et le samedi, elle fréquente des brasseries avec ses copines ou regarde chez elle ses films préférés. À la différence des jeunes de sa génération, Keva, enfant d'une famille nombreuse qui a vécu une enfance et une adolescence difficiles, c'est bien quel est le prix que les gens sans qualification doivent payer pour ne pas sombrer dans les bas-fonds de la société. Keva a activement participé à la création de la BD et peut être considérée comme sa co-auteure.
On choisissait d'abord le thème dont j'allais parler. Ensuite, je racontais ce que je voulais dire et puis on écrivait et dessinait mon histoire. J'ai fait moi-même certaines photos.
C'est Albina, une femme de 45 ans, ayant vécu la grande partie de sa vie dans des villages roms de Slovaquie orientale, qui est l'héroïne du troisième volet de la série. Dans les années 1990, Albina vivait avec son mari et ses 7 enfants dans le village de Hermanovce, qui a été frappé par des inondations catastrophiques. C'est là où elle a rencontré Karel, activiste humanitaire tchèque. Karel et Albina sont tombés amoureux l'un de l'autre, ce qui allait compliquer gravement leur vie. Le dénouement de leur histoire a été cependant heureux. La méthode choisie par les auteurs des trois bandes dessinées est un collage photographique qui sert de modèle au dessin réalisé ensuite par le scénariste et dessinateur Vojtěch Mašek.
Chaque BD nous a poussé à structurer différemment le récit. Cela a été le plus important dans le récit d'Albina, où nous avons décidé de donner la parole à trois autres narrateurs. Ce qui était important pour moi aussi, c'était la responsabilité vis-à-vis de tous ces gens. Ce n'est pas une simple fiction où tu peux faire ce qui bon te semble. Ici, la vérité et l'objectivité sont très importantes, et c'est pourquoi nous avons choisi une structure différente pour chaque récit, et nous nous sommes laissés guider par le texte et les caractères de ces gens.
Aujourd'hui donc, les trois volets de la série sont disponibles chez la libraire. Leur parution a suscité une assez grande attention de la presse. Margareta Hajska espère que la série trouvera ses lecteurs, que le genre de la BD documentaire s'imposera en Tchéquie, comme c'est déjà le cas à l'étranger, et que les lecteurs tchèques de ce genre littéraire seront de plus en plus nombreux.
Nous avons cherché à ébranler un peu l'approche stéréotypée de la société vis-à-vis des Roms, que ce soit des stéréotypes positifs ou négatifs. Nous avons cherché à démontrer que la situation de chaque personnage est différente, que leurs attitudes vis-à-vis des traditions sont différentes et que leurs approches de la vie diffèrent aussi.
Bien que les trois BD soient destinés à toutes sortes de lecteurs, Margareta Hajska serait évidemment très contente si elles étaient lues par des Roms. C'est une des raisons pour lesquelles les auteurs ont réservé dans le texte de leur BD une place importante au romani, langue rome qui alterne avec le tchèque notamment quand l'histoire a été racontée en romani. Margareta Hajska pense que cet aspect des livres pourrait attirer des lecteurs roms.
En ce qui concerne les phrases du récit, chaque mot qui figure dans le texte a été dit par les narrateurs qui sont aussi héros de leurs histoires. C'est à nos lecteurs de juger ce qui est la vérité et ce qui est la fiction dans ces textes. Nous avons été cependant surpris parce qu'il s'est avéré que même certaines histoires très improbables de M. Ferko avaient un fond de vérité.
Je vous ai présenté trois livres, trois confessions de Rome en bande dessinée. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Viernochova, réalisation technique, et à Ira Rozumna, prise de son.
Le tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Comme promis la semaine dernière et puisque la saison des sports d'hiver bat actuellement son plein, cette nouvelle émission sera consacrée à la recherche de l'étymologie des appellations des chaînes de montagnes tchèques. Il en existe sept principales qui forment des frontières naturelles entre la République tchèque et ses pays voisins. Et puisque les monts des géants
Krkonoše
constitue la chaîne la plus importante et la plus haute, c'est donc logiquement avec eux que nous allons commencer. Situé à l'est du pays, dans la région des Sudètes, à la frontière entre la République tchèque et la Pologne, le massif des
Krkonoše
est bien connu et très fréquenté, notamment parce que s'y trouve le point culminant de la République tchèque, le mont
Sněžka,
et ses 1602 mètres. L'origine du nom de ce sommet le plus haut provient tout simplement du mot
Sníh,
la neige. Ainsi donc,
Sněžka
peut être traduit comme étant la montagne enneigée, et ce sans aucun doute parce que son sommet est recouvert de neige pendant au moins la moitié de l'année. Bref, un peu comme le Mont Blanc, ainsi désigné en raison de la couleur de son sommet. Pour ce qui est de ces monts des géants,
Krkonoše,
qui portent donc si bien leur nom, du moins par rapport aux autres chaînes de montagnes tchèques de moindres altitudes, la recherche des origines de l'appellation est en revanche beaucoup moins évidente, puisqu'il existe plusieurs théories. Si l'on observe bien la composition du mot, cependant, on s'aperçoit tout d'abord que
Krkonoše,
dont la trace écrite la plus ancienne remonte au XVIe siècle, est composée de deux parties. Dans la première, on retrouve en effet le mot
krk,
soit le cou en français, et dans la seconde, le verbe
nosit,
à savoir porter. Mais en fait, il ne s'agit pas du mot
krk,
qui désigne la partie du corps qui unit la tête au tronc, mais plutôt du mot
krak,
une vieille appellation slave, qui désigne un pin de montagne, dit pin accroché, un arbre qui atteint entre 15 à 25 mètres de hauteur, que l'on trouve également, par exemple, dans les Alpes ou les Pyrénées, et dont ce sont les fruits, les cônes, qui lui donnent son nom. Bref, selon cette hypothèse, qui est la plus répandue, l'appellation
Krkonoše
signifierait donc littéralement que les versants de ces monts, qu'on appelle aussi des géants en français, portent des peuplements de ces fameux pins accrochés. Une théorie qui n'a absolument rien de farfelu, puisqu'elle correspond en fait à la réalité. Il existe cependant également, comme nous l'avons déjà précisé, d'autres théories, plus ou moins probables et solides, dont une, notamment la plus récente, selon laquelle le mot
Krkonoše
proviendrait d'une expression très ancienne qui aurait été utilisée dans la langue des habitants qui peuplaient la région avant même encore l'arrivée des Indo-Européens. Ainsi, selon cette hypothèse, l'appellation
Krkonoše
signifierait quelque chose comme paroi rocheuse, versant rocailleux et champ de pierre, champ de cailloux. Une origine difficilement vérifiable, mais qui ne peut être complètement exclue, puisque comme pour les pins accrochés, il existe effectivement de nombreux endroits dans les
Krkonoše
ressemblant à cette description d'un paysage lunaire. Restons dans la région des Sudètes, très légèrement au nord-ouest des
Krkonoše,
où l'on trouve les
Jizerské hory,
soit littéralement les monts de Jizera, le massif le plus au nord de la République tchèque. Cette fois, retrouver l'origine de l'appellation est beaucoup plus simple, puisque celle-ci provient du nom de la rivière Jizera, un affluent de l'Elbe qui prend sa source sur les pentes du mont
Smrk.
Notons au passage qu'il s'agit là d'un bien joli nom pour le plus haut sommet, avec ses 1124 mètres de la partie tchèque des
Jizerské hory,
puisque
Smrk
équivaut à un épicéa en français. On devine facilement pourquoi. Mais revenons donc à la rivière Jizera, une appellation elle aussi très ancienne, puisqu'elle est d'origine celtique. En fait, sa racine proviendrait du mot pré-indo-européen Iziras, qui signifiait rapide, vif, frais ou fort, et caractérisait donc le cours d'eau. Enfin, et ce n'est certainement pas le détail le moins intéressant, notons que beaucoup de rivières tchèques, mais aussi plus généralement européennes, possèdent des appellations et des origines similaires à celles de la rivière Jizera. Et parmi toutes les variantes existantes, citons notamment par exemple la rivière Isère, qui a elle aussi donné son nom au département situé dans le sud-est de la France. Už zhor zní zvon a spí tvá staj, ten vzácný čas. Voilà, c'est ainsi que se referme ce Tchèque du bout de la langue et avec lui la première partie de notre nouvelle petite série consacrée donc à l'étymologie des noms des chaînes de montagnes en République tchèque. Et en attendant de vous retrouver dès la semaine prochaine, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Courrier des auditeurs.
Où que vous soyez, chez vous, en vacances ou au travail, passez un agréable moment en compagnie de Radio Prague. Voici notre sélection hebdomadaire des lettres et des courriels que nous avons reçus de votre part et qui sont susceptibles d'intéresser l'ensemble de nos auditeurs.
Merci pour toutes ces lettres qui sont très précieuses pour nous parce qu'elles témoignent que nous sommes écoutés et lus et que notre travail n'est pas vain. Cette émission vous est proposée aujourd'hui par Alena Gebertova et Václav Richter. Merci de rester avec nous.
Nous écrit Marie-Madeleine de Baudrillard de France. Je lis votre article au sujet de Zdenka Braunerova et du roman « Sur les ailes d'un moulin à vent » de František Kožík. Pouvez-vous m'indiquer si ce livre a été traduit en français et chez quel éditeur ? Merci pour l'excellente qualité de toutes vos rubriques.
C'est dommage, mais nous devons constater que jusqu'à présent, la biographie romancée de Zdenka Braunerova, écrite par František Kožík, n'a probablement pas encore été traduite en français. Rappelons que le livre intitulé « Sur les ailes d'un moulin à vent » est le premier volet de la biographie en deux tomes. Le second volet s'appelle « Une fin d'été turbulente ». ». Le livre de František Kožík retrace la vie de Zdenka Braunelová, peintre tchèque ayant vécu entre 1858 et 1934, et illustre aussi le rapport profond qui lie cet artiste à la France. Pendant presque toute sa vie, cette amie de Claudel et de Rodin a été ambassadrice non officielle de la culture tchèque en France et de la culture française en Bohême. Elle a aussi lutté contre le provincialisme des milieux artistiques tchèques et ouvrait les fenêtres sur le monde. Dommage que cet excellent livre n'ait pas encore suscité l'attention d'un éditeur français. Je serais heureux de recevoir la carte KSL Bohumil Hrabal. Merci d'avance, nous écrit notre auditeur assidu Christian Guibaudeau et il poursuit. Par ailleurs, je vous signale que je n'ai plus reçu aucune réponse de la part de Radio Prague depuis plusieurs semaines. Par exemple, aucune réponse à ma lettre de 8 juin dernier. Pareil, pas reçu la carte KSL pour mon rapport d'écoute d'il y a 15 jours, même si vous en avez parlé lors du courrier des auditeurs du 10 juillet. Avez-vous déjà fait des réponses à ces courriers? Dans l'émission d'hier, j'ai été intéressé par le reportage sur la berce du Caucase qui envahit la Bohême. Cette plante est une vraie plaie pour l'écologie en Europe. J'avais pu voir quelques spécimens assez imposants sur les îles des Açores il y a quelques années. Intéressant aussi l'entrevue avec la comédienne Micheline Prel, qui est un peu oubliée en France. Merci à Radio Prague de l'avoir remise à l'honneur à l'occasion du festival de Carlo Vivari. Dans quelques jours, je serai en vacances dans le nord de l'Europe. Je pense que je garderai le contact avec Radio Prague grâce à l'écoute sur Internet avec mon mini portable.
Cher Monsieur Guibaudeau, excusez-nous ce retard. La section de Radio Prague chargée du courrier des auditeurs en a déjà été informée. Et la réponse de Radio Prague à vos lettres ne se fera plus attendre. Dans son courriel, Madame Chantal Pétion de France revient encore sur notre dernier concours par lequel nous avons testé vos connaissances de la littérature tchèque. Voilà ce que j'ai envie de vous écrire. Merci de nous avoir offert ce concours. Cela nous permet de découvrir des écrivains rarement évoqués et peu connus. Si j'avais eu le temps de vous écrire avant le 15 juin, j'aurais également choisi Bohème Bohème de Josef Hirschl. Je n'ai rien à ajouter à ce que je viens d'entendre. Je peux enfin écouter votre émission du 6 juillet et donc prendre connaissance du texte envoyé par Monsieur Dumoulin de Suisse. Sauf peut-être ma volonté de remercier Václav Richter qui me l'a fait découvrir. Bon été à vous.
Nos auditeurs Frédéric et Hervé, brillants de talents en France, réagissent dans leurs lettres aussi à une de nos émissions. Nous avons écouté avec attention le pays du tourisme du dimanche 4 juillet consacré aux grenats de Bohême de Turnhof, écrivent-ils. La couleur de cette pierre est très belle et les bijoux, surtout les reproductions anciennes, magnifiques. Bonne semaine et très sincères amitiés radiophoniques et tchécophiles.
En effet, les bijoux en grenat de Bohême sont une spécialité tchèque qui était très appréciée surtout au 19e et encore dans la première moitié du 20e siècle. Les colliers, les bagues, les boucles d'oreilles et les bracelets en grenat rehaussaient le charme de nos grands-mères. Mais ils sont fabriqués toujours et on en trouve beaucoup chez les bijoutiers et antiquaires. Il est bien possible donc que la mode de ces bijoux d'un charme très particulier revienne encore.
Chers amis, lisons-nous dans la missive de Jean Spett de France. Pourriez-vous me donner vos heures d'émission, s'il vous plaît? J'ai une nièce qui se rend à Prague pour quelques jours de visite début août. Je lui ai parlé de vous. Pourriez-vous la recevoir au cas où son emploi du temps le lui permettrait? J'attends votre réponse pour la lui communiquer.
Bien sûr, Monsieur Spath, si votre nièce arrive en Tchéquie et nous rend visite à la radio, nous serons bien contents de la recevoir. Si elle veut bien, nous pourrons faire avec elle aussi un petit entretien et le présenter dans le cadre de cette émission réservée à nos rapports avec nos auditeurs.
Avant de vous dire au revoir, voici encore la réponse à la question qui nous a été adressée par Monsieur Rassem Ben Brahim de Tunisie. Il nous demande combien il y a d'internautes dans notre pays.
Le nombre d'internautes en République tchèque a dépassé les 5 millions, ce qui est la moitié de la population du pays. Leur nombre continue à augmenter.
Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à ceux qui nous ont écrit. Merci à tous ceux qui écoutent nos émissions. Nous vous souhaitons à tous de passer de jolies vacances.
En su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0:30 horas UTC los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.